ce que j'ai retenu, c'est que la famille a un pouvoir autonome qui fait peur à l'Église au sujet du vol, Chérou, et qu'il y avait une danse funéraire qui a disparu. Ça, c'était très beau. Fabien, je me suis revue dans les salles de cinéma où je perçois souvent que la musique a son propre discours et en dit plus parfois que l'image, en ne se contentant pas de l'illustrer, mais elle parle. Et Alain, avec la musicalité de ta langue, tu as écrit sur des musiques, alors que souvent les auteurs donnent un texte et ensuite on fait la musique. Tu as écrit sur des musiques en rêvant à d'autres formats, peut-être communs, du coup, au 18e et peut-être à une deuxième partie de notre siècle. Si vous avez des questions, vous les poserez directement aux communicants pendant le goûter. Et pour les prochains communicants, vous avez très peu de temps, sinon l'alarme de la salle immersive retentira et un gaz s'y propagera. Voilà.
Merci beaucoup. Donc nous allons poursuivre sur la table ronde qui s'intitule La musique corse du réacquis à sa marchandisation touristique. Nous avons pour cela donc Nicole Casalonga du Centre National, du Centre Bodge, à Pigne, Marc-André à Castellagne. Vous ne connaissez peut-être pas son corps, mais sa voix. Sa voix sur RCFM aussi, c'est le chanteur du groupe Balagne, chanteur et plus, compositeur, etc. Patrick Saligedi, qui est également directeur de l'Office du tourisme intercommunal du Cap Corse, et maître, nouvellement maître de conférence associé à l'Université de Corse. Félicitations, merci. Et Sébastien Dussol, doctorant, et également. Culturel, disons, du groupe Balagne, pour faire court, disons, entre les différentes présentations. Donc nous allons animer cet échange, Passa des Bourgs, au sujet de... Moi, ce qui m'interpelle, disons, au niveau de la musique, je le disais un petit peu ce matin, c'est ce qu'a dit Eneco tout à l'heure, au niveau de la langue basque, du chant basque, de la manière à dire comunida, du brimo basse, du brimo arrivo a Oguleggio, du Baoligé, c'era un groupe di veri che cantava, non c'è un ego di tribù, c'era un ego di tribù di Oguleggio, e noi vediamo Berta di questa tribù di veri che provavano a cantare, a fare, c'era un gruppo di Geremo, e c'era anche Pierre Gambini, era emploi jeune, e partecipava di Geremo, c'era una giornata, e Oguleggio di Dio Astida. Donc, ben, non, il dit la manière, il dit va, je trouve, t'identifie, si t'appartiens, je vais vous demander tout d'abord, est-ce que pour vous, ça a été cette première étape, et notamment vous trois peut-être, et peut-être toi aussi, Patrick, si la place peut-être du chant.
Alors que c'était un bon déjà, salut à tous, grâce à Sébastien Perlimbi, toi, qui est. Di un piacere di seguire a fianco a voi per avere queste riflessioni che sono per me e per noi ben su di Primura. Che lo sia stato una maniera, un'affermazione identitaria in un contesto che è stato quello della nostra gioventù, è qualcosa di sicuro. Penso che dirà di noi una maniera di riconoscersi. Je pense che la dimensione centrale, qui est peut-être trop souvent occulté à l'heure actuelle, notamment quand on se baigne volontiers dans un certain satisfaxit à l'heure actuelle sur le nombre, la quantité des productions en Corse, c'est que c'est pour moi quelque chose qui occulte volontiers une réalité sociale qui est celle d'une acculturation accélérée, galopante, et qui a peut-être même cédé place à une forme d'inculture avec les années passant. Et je pense que sur des générations qui sont passées de familles qui étaient naturellement corsophones, naturellement corses, à des générations où peu à peu les choses se sont perdues, notamment dans les familles, c'est vrai que le chant, là-dedans, ça a permis à des jeunes qui avaient une forme de conscience, voire même souvent de proto-conscience politique, voilà, de se retrouver et au Gant, oui, vraiment, je pense que je fonctionne en aiguille. Après, si on doit coller.
Si Gant a forcé ta jeune, il force est mieux pour Pouli, diga, que pour Arte.
Per identità, in tutti i casi, di una maniera da affermare una differenza. Dopo penso che ciò che veramente è scambiato, s'il y a une. Quand on parle sur le sujet de la conférence là, c'est-à-dire on parle du réacquisto, o réacquisto di una parola importante, vale a dire réacquista. Et on arrive donc à la situation moderne qui est la commercialisation touristique. Je pense que c'est un sujet qui est important, mais qui est surtout extrêmement complexe, parce qu'il va accompagner une somme de mutations sociales qui vont être incroyablement rapides sur un temps très court et incroyablement profondes. Voilà, et je pense que le point de départ, ça m'a marqué ce que j'ai entendu d'Alain, de Davia. Je trouve qu'on retrouve dans tous ces propos la fonction sociale du champ. Ça, c'est la constante. Je pense qu'il y a une citation historique qui est formidable, qui est celle de Cantubo Pulugurso au Théâtre de la Ville, quand il y a Cece Buto qui dit « En Corse, le chant fait partie intégrante de la vie et rythme tous les moments de l'existence, de la naissance jusqu'à la mort, et est aussi le véhicule de l'histoire. » Cette fonction sociale, et ça c'est un postulat que je défends depuis des années, elle a accompagné les mutations sociales et elle a épousé les différentes formes. Voilà. Et ciò che tu mi tuoi dindato domanda, penso che dire che dire un tempo una funzione sociale che era posseduta tra d'astre, che era posseduta via Ogantu Gosso, che dire una funzione identitaria in un tempo da culturazione maggiore.
Voilà. Nicole Casalonga.
Merci pour votre invitation. Oui, vous m'entendez? Je suis très mal à l'aise. En fait, je suis très mal à l'aise sur ce sujet. Car s'agissant du Riaquisto, je n'ai pas la même, le même sentiment que Marc-André. J'assistais à, dans des productions, je dirais, du groupe, notamment phare de l'époque, Cantao Populugurso, qui pour moi ne correspondait absolument pas à ce que j'avais entendu dans les années 60. À Sermano, avec ce magnifique chantre qui était Bébé Mariani, ou à Rouge, avec les équipes de Moretti, Opisi et Rocchi, notamment. Ces chantres qui chantaient lors des messes patronales pour la Saint-Roch, notamment à Rouge, toute la liturgie qui était magnifique, et qui identifie Ouers, justement, de Rouge, magnifique. Différent de celui de Sermano et différent aussi ce verse de celui de Taglio. Car le verse, je crois, c'est une situation intime entre le texte et la mélodie. C'est aussi ce qui identifie, ce qui singularise une famille, une région. C'est un style qui identifie une région, une famille, voire un chanteur. Et effectivement, lorsque j'entendais le timbre, notamment, du ensemble rock, ce timbre cuivré, la basse d'Opisi, qui était une basse bourdonnante, et cette brillance de la terre, ça était celle de Moret. J'étais face à une production extraordinaire. C'était les mêmes, après la messe, qui chantaient au bar, qui chantaient les paniers, et notamment à Madrigale. Et à Madrigale, avec un incipit formidable, « Io vincere vorrei la mia avversaria con quelli antichi gesti e belli modi. » Je voudrais vaincre mon adversaire avec ses gestes antiques et ses belles manières. Et pour moi, ça a été la représentation fulgurante du combattimento tra Tancredi et Clorinda. Donc, je me suis posé la question, notamment sur ce madrigal, la source justement de cette forme-là précise, car le madrigal est construit sur quoi? Non pas sur le double octosyllabe ou le 16 pieds, parce que la padiella se déroule sur le 1-16, le double octosyllabe, avec une césure au 12e pied et une coda de 4 ou 5 pieds. Voilà comment se déroule la padiella en général. Je rentre peut-être des considérations musicologiques, mais vous m'excuserez. Je vais essayer de faire plus rapide. Notamment sur le madrigal, lui est construit sur des endécasyllabes. Et lorsque vous parliez Alain, des richesses, et notamment les vers libres actuels, nous avons, nous, en musique traditionnelle, une richesse strophique extraordinaire. Parce qu'il y a le double, l'octosyllabe, le l'endécasyllabe, le 12 pieds varié avec le 16 pieds, la concordance entre le l'endécasyllabe et l'heptasyllabe, par exemple, dans le lamento de le lamento d'Antonio. Le lamento d'Antonio Méjeune est construit sur l'alternance d'endécasyllabes et d'heptasyllabes, qui est justement des formats de la Renaissance jusqu'à Léopardi. Nous les retrouvons.
Donc, Nicole Casalonga, pardon, est-ce que justement le réacquiche, qui a été une lutte pour la reconnaissance, pour la réappropriation, est-ce qu'elle a permis cette réappropriation?
Écoutez, j'ai été vraiment, comment dire, je ne crois pas, parce que, enfin, à mon sens, maintenant je ne veux pas l'affirmer aussi brutalement, mais à mon sens, non. Nous n'avons pas retrouvé à travers le réacquiche, ou enfin, lorsque j'entends les productions de Cantabria, cette richesse trophique, justement, et la richesse sémantique de nos poésies. Alors, il y a de formidablement belles chansons, mais ça c'est sûr, comme par exemple l'Alta Strada, c'est magnifique. À mon sens. Et alors...
Est-ce que la réappropriation n'amène pas forcément, de façon mécanique, à une réduction justement du prisme?
Non, elle nous a permis de nous interroger sur notre musique et sur nos sources, justement. Parce que, effectivement, je crois que ce formidable mouvement de réappropriation, une révolution culturelle en soi, nous a permis de nous questionner. Qu'est-ce que, justement, quels sont les fonds, quelles sont les sources? Et nous avions eu, nous, la chance de rencontrer Félix Quilich, qui est président de Renaissance de l'Orgue Corse en même temps, qui était altiste à l'orchestre de la Radio France, qui était président de Renaissance de l'Orgue Corse. Et les premiers orgues en Corse avaient été inaugurés, la restauration des premiers orgues, en 1964 à La Porte. Je suis issu à la fois d'une double culture. Je suis, par mes parents, issu dans un milieu paysan. Je chantais avec mes petits camarades les comptines, Estupat et Cosegouzi, et j'allais aussi à la messe, bien qu'ayant une maman athée et communiste. Mais j'allais à la messe écouter les grandes liturgies, et j'étais fasciné par les liturgies pascales lorsqu'on recouvrait de soie violette les statues et qu'on récitait les litanies. Et je participais à tous les rituels de la fête de Dieu en tressant des couronnes de marguerites jaunes pour décorer les statues de la Vierge. Et puis tout ce qui était le côté religieux, je m'en suis dégagée. D'ailleurs, quand j'étais enfant, c'est un petit détail peut-être un peu cocasse, je faisais des trous pour trouver le diable et en fait lui dire que je ne l'aimais pas, parce que la liturgie d'autrefois c'était justement le diable, c'était en fait le Christ vengeur en quelque sorte et pas le Christ d'amour. Et puis le diable, si tu fais des... Voilà, bon, mais ça c'est un détail pour vous dire. Mais aussi dans notre village, dans ce village, il y avait donc tout un substrat.
C'était quel village?
Pardon?
Quel village?
Un village du Tarve, à 45 km d'Ajaccio. Et donc là, cohabitaient justement, disons, la musique dite traditionnelle, les comptines, les berceuses qu'on chantait dans ma famille, etc. Et puis, il y avait là, dans des familles, les familles de notables, un piano quart de queue chez le médecin du village, un piano table dans une autre famille de notables, et j'étais fascinée par ces instruments. Donc j'ai étudié justement la musique classique à travers le piano. Et puis lorsque je suis venue en Valagne, très vite, j'ai senti que ce piano n'avait plus tellement de sens à partir du moment où je découvre les orgues et ce tempérament particulier qui s'appelle, que l'on nomme le tempérament mésotonique, qui privilégie justement la pureté de certains rapports, c'est-à-dire notamment le rapport de tierce et tierce pure. Car vous savez que le piano, en fait, est accordé, c'est un accord inégal et tout est faussé sur le piano, pratiquement. Je ne sais pas si Olivier peut être confirmé la question.
Moi, je suis pianiste et j'ai joué faux toute ma vie. Voilà.
Merci. Peut-être Sébastien, et après on fait tourner.
Oui, non, pardon. Excusez-moi, hein? J'ai trop parlé.
Non, Sébastien.
Merci déjà pour l'invitation. Et je dirais que la question du récus est une question intéressante, parce qu'on évoquait ce matin avec Baptiste les deux mondes, que sont le monde du récus et le monde traditionnel, qui cohabitent aujourd'hui, qui ont cohabité à un moment, l'un puisant dans l'autre.
Pardon, quand même. En même temps, on a vu du rock, d'autres chansons, tout ça, ça existe ou pas ? Dans ton monde, dans ton enfance.
S'il faut faire le
CD. Nicole Casalonga évoque aussi d'autres influences que la musique dite traditionnelle. Est-ce que, voilà, peut-être la musique classique aussi, est-ce que ça a existé ou pas ?
Dans le cadre de la Corse.
Ou est-ce qu'il ne faut pas l'avouer ? À un moment donné, dans le livre de Pedro, justement, Pedro Belfucci, je crois que c'est ça, il dit, oui, dans les années 70, on écoutait du rock, on était tous passionnés par ça, mais on ne disait pas, il ne fallait pas le dire. C'est Jean-Paul Bolletti, je ne sais plus comment, mais en tout cas, voilà.
Moi, je dirais, mon exemple est particulier, parce que j'ai commencé la musique en tant que batteur au conservatoire à Bastia, et j'ai fait du rock pendant longtemps. Beaucoup de rock, même du métal.
Tu nous dis tout.
Voilà, je vous dis tout. Je suis... je me livre. Et le retour, je dirais, le retour au Réacuiche, dans la chanson corse, s'est fait assez tôt. Mon père chantait dans l'Albine, donc c'est quelque chose dans laquelle j'ai baigné très vite. Et j'ai découvert un peu... Je suppose, comme toi, comme Marc-Henri, la musique corse, la polyphonie notamment, au collège, au lycée, où c'était un marqueur identitaire. J'ai appris, pour tout dire, la padille avec Paul Agostini, qui était mon pion, et qui faisait les ateliers entre midi et deux, et c'était super. Mais le monde traditionnel et le monde du réacuiche, forcé de constater maintenant que je suis dans mon doctorat en musicologie, où je m'intéresse à ces questions-là, c'est pas tout à fait la même chose. Et je trouve que les problématiques qui étaient celles du réacuiche, qui ont été amenées par le réacuiche, par cette réappropriation culturelle, ce processus de patrimonialisation qui, par définition, est un processus de tri, de sélection, donc de diminution, sont les mêmes aujourd'hui qu'on retrouve dans la marchandisation. Disons que la marchandisation est une prolongation de ces problématiques, elle les exacerbe, et les questions qui ont été posées pendant le réacuiche, il faut se les poser aujourd'hui, parce que la marchandisation, et c'est compliqué, quoi. Le réacuiche avait des limites qui s'expliquent par l'urgence politique, l'urgence culturelle, mais je dirais qui sont aujourd'hui encore d'actualité, mais qui dans un monde mondialisé, qui était moins le cas dans les années 70, sont plus pressantes et plus problématiques.
Problématique de quel point de vue ?
Problématique, par exemple, sur... Pour revenir au réacuiche, tout le réacuiche, il y a eu des modifications esthétiques sur la musique traditionnelle qui sont dues à la fixation sur le support CD, pour emprunter au lexique de la médiologie de Régis Debray. On est passé d'un mode de transmission qui est celui de la mnénosphère, qui est 100%, qui est quasiment basé en totalité sur l'oralité, et on est passé d'un coup à l'audio-vidéosphère qui était le CD. Voilà, moi j'ai découvert avec mon père certaines parts d'oralité, mais surtout avec les disques de Kant, de Labine, de Métian, etc. Bon, c'est comme ça que j'ai vécu mon oralité, c'était les CD. Les CD
c'était la chaîne IFI.
C'était la chaîne IFI. Mon instructeur, mon maître, c'était aussi le
Consigliaba aussi. Est-ce que ça se complète ça...
Oui et non.
Et le lycée, parce que le lycée, tu évoques Paul Agostini, par exemple. Moi, ça a été mon étudiant, du coup, ça me fait... Voilà.
Oui, mais Paul Agostini est quand même, de par son jeune âge, il a pas vécu le réacuiche, comme l'ont vécu, je suppose, Nicole Casalon, comme l'ont peut-être vécu mon père, comme l'ont vécu Pedro Belfucci, etc. Donc, eux aussi, Paul Agostini et d'autres, ont vécu un réacuiche en décalé, à travers les CD. Et le problème de ces CD, et de la fixation, c'est que, à l'époque, moins qu'aujourd'hui, mais quand tu fais des CD, il en était question tout à l'heure, tu ne peux pas faire à la main toutes les 47 couplets qui durent 20 ans, avec des trois quarts de ton, des quarts de ton, des mélismes, c'est pas possible.
Pourquoi ? Techniquement, on peut.
Techniquement, on peut. Alors, mais quand
ça passe à la radio, c'est une autre chose, mais sur un CD ou sur une plateforme.
Sur un CD, peut-être, mais un groupe, en tout cas, un groupe qui produit un CD, le but, c'est de le diffuser à la radio. C'est un moyen de diffusion qui, encore aujourd'hui, Marc-André pourra sûrement parler, RCFM, encore, c'est quand même une grosse institution. Et si le but des groupes, c'est de sortir des albums pour être diffusé à la radio, fatalement, il y a un cahier des charges qui est le temps, qui est, par exemple, on parlait des intervalles microtonaux. C'est pas dit que ça plaise, que ça passe. Donc il y a eu forcément, pendant le gratuit, une modification esthétique de la musique traditionnelle qui, de facto, le sépare, c'est pas le mot, on parlait tout à l'heure de rhizome. Enfin, il y a une branche qui s'est séparé un peu du corpus traditionnel classique, qui a suivi son propre chemin, qui a fait des allers-retours, qui a puisé. Mais je pense qu'aujourd'hui encore, et à l'époque aussi, il y a une confusion entre le réacuif, la musique du réacuif, et la musique traditionnelle. Il n'y a qu'à le voir, un exemple édifiant, je ne sais pas, mais quand on regarde The Voice, je n'ai pas d'exemple de chanson particulière, mais si moi, demain, je regarde The Voice, je vais chanter Sintiné, qui a été composé par Canto Bulgorse, ils ne vont pas mettre Canto Bulgorse, ils vont mettre traditionnel corse. Et je l'ai vu, je ne sais pas si c'était Sintiné, mais il y a une confusion aujourd'hui, y compris, bon, moins des acteurs, mais il faut quand même se la poser cette question. Entre nous, je pense que tout le monde fait la différence. Mais puisqu'on parle de marchandisation, etc., le public doit être éduqué à la différence. Nous devons nous éduquer sur ce qu'est la différence entre le réacuif et la musique traditionnelle, et il ne faut pas, au travers de cette marchandisation, entériner cette confusion, ce flou sémantique, en fait, qui était déjà au centre des préoccupations musicologiques, notamment de Dominique Salines, par exemple. C'est des choses qui ne sont pas nouvelles, mais c'est des choses qui sont encore aujourd'hui contemporaines et qui me paraît urgent, de si ce n'est de régler, de discuter, parce que là où le réacuif, on avait un peu plus, enfin, plus de temps. Disons que le réacuit a fixé, donc nous a donné la possibilité de prendre ce temps. Mais aujourd'hui, avec la marchandisation, la mondialisation, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, c'est important, dans la communauté scientifique, de se poser ces questions pour pouvoir aussi éviter que le monde profane, je dirais, ne continue à confondre le réacuit et la musique traditionnelle.
Alors la marchandisation, lorsque j'étais au lycée, il m'ouvrit, il devenait professionnel. Et pour nous, c'est extrêmement... C'était une très bonne chose, c'était un miracle quand même qu'un groupe puisse vivre en étant, non pas en étant fonctionnaire, mais vivre justement de leur art. Ça, c'était quand même assez révolutionnaire. Hein. Est-ce que justement la marchandisation, question je vous la pose indifféremment à tous, est-ce que vous pensez que ça a, à contrario peut-être aussi, façonné peut-être, créé de nouveaux canons de la musique corse avec certaines attentes? Alors, il y a peut-être un son imouvrine, il y a peut-être, mais qui du coup se sont peut-être coupés aussi de leur terrain initial. Lorsqu'on assiste à un concert d'imouvrine, plutôt des touristes, hein,
c'est une remarque très intéressante. Je trouve le point de départ de Sébastien est intéressant parce que, effectivement, le premier disque de Canta, c'est Rio Diego Mal. Et Rio Diego Mal est Canto Popolo Corso. L'originalité de Canta, c'est qu'il propose un travail de recueil. Qui est, à mon sens, je n'ai peut-être pas la finesse de connaissance de Nicole, mais je trouve que venant d'un monde qui connaissait moins, qui était en perte de vitesse quant à la connaissance du traditionnel, c'est un très beau tour d'horizon qui a été fait par Kant. Très beau, très original, bien exécuté. Et dedans, vous avez la fameuse Corsica Nostra et Allettera di un Latera au Corso, c'est-à-dire qu'on va inoculer quelque part dans cette tradition un véhicule problématique moderne qui va répondre à de nouvelles problématiques très violentes qui débarquent en Corse et qui vont effectivement absorber avec de nouveaux canons, avec notamment l'incorporation de la musique sud-américaine pour porter un chant plus revendicatif et qui vont, à partir de ce moment-là, on n'est plus dans du chant corse ou dans de la tradition, on est dans une culture corse vivante à un instant T qui chante son instant T avec les influences d'un instant T. prenez par exemple le groupe Rialto, qui à mon sens dans ses textes était très enraciné et qui faisait du rock, qui était proche de ce que pouvaient être les Pink Floyd, ou à l'époque ils se revendiquaient de Magma, donc du Zeul. Bon, ça c'est une problématique. Ensuite, la marchandisation, moi ce que j'observe, et ça c'est une observation depuis mon micro d'RCFM et de terrain, je pense que ce qui s'est passé, c'est que progressivement, sur une quarantaine d'années, le chant corse est devenu un pôle économique. C'est-à-dire qu'il y a eu une valorisation financière par le biais des fonds publics et par le biais du tourisme, donc, et de l'attrait qu'a pu représenter ce chant à l'international. C'est devenu un gros pôle économique qui génère beaucoup d'argent. Donc avec une vraie valorisation et sociale et financière. Ce qui n'était pas du tout le cas, à mon avis, au temps de Kant. Pense au guide à Nostradamus, à l'Omondiado Banenek, au Bernoy Astri. Donc il y a cette réalité-là. Au même moment, l'acculturation, loin d'être stoppée, d'après moi, elle s'est accélérée. Il y a eu donc une démultiplication, parce que c'était quelque chose de valorisé, de l'offre culturelle, et une disparition, ou une dilution, ou une dispersion du public averti. C'est-à-dire que je pense que si Kant réapparaissait aujourd'hui, son aspect révolutionnaire passerait complètement à la trappe. L'impression que j'ai aujourd'hui, moi, c'est que...
Mais Vandam Astor nous évoquait ce matin une scène qui, aux pêcheurs, à la fête des pêcheurs la semaine dernière, elle disait Kant a chanté face aux touristes et les jeunes Corses étaient au comptoir en train de boire et tourner le doigt à Kant.
Ça, on l'a vécu comme artiste culturel. Si vous voulez, la guerre avec le comptoir, on la vit depuis qu'on a commencé. Le public corse aujourd'hui est devenu le public sans doute le plus difficile à toucher, mais je pense que pour l'avoir cherché quelques années, au Mozin Timamek, il dit à Saïdou, vous dites qu'on existe, t'es bio. Vous n'avez plus aujourd'hui, je dirais, un terrain qui est suffisamment fertile pour constituer une oreille avertie. Et je pense, et là, il y a un mea culpa médiatique. Je pense qu'il a manqué aussi peut-être un travail de critique, de vraie critique. C'est-à-dire, tel artiste a connu cette évolution, ça c'est un fait positif, ça c'est original, ça s'est passé comme ça, ça il s'est égaré. Le problème, c'est que la société de proximité...
Pardon, est-ce que c'est aussi ce que tu essayes de faire avec ta casquette d'RCFM ?
Ben, moi, avec RCFM, j'ai plutôt valorisé ce qui était beau. C'est ce que j'ai essayé de faire. Dire quoi des stades intéressantes, quoi des stades intéressantes. D'où vous dites qu'un tal est éparso, on a du Mikalazu, il va me dire Pankerouyo. Voilà. Et ça, c'est ma casquette d'artiste. Et Dieu sait que Sodouia. Voilà.
Vagisin, t'es autos autres, tout d'un certain manière.
Senza cattivezza. Senza cattivezza. C'est ta difficulté. Mais par contre, ça combine tout d'une chose, dit qu'il y a gridiga. On bibèche ta mica, on bine mica quelque chose qu'il faut recevoir avec des grandes embardées émotionnelles. Moi, je pense que ça vous construit. Et ça vous fait. Et ça, je pense que ça a péché. À l'heure actuelle, il y a une grande production. Et la grosse menace, c'est la folklorisation, parce que vous soyez à Villette ou que vous soyez n'importe quel autre groupe qui a un label chant corse, polyphonie corse, vous serez renvoyé dos à dos. Et il y a automatiquement quelque chose de très artificiel là-dedans. Et quand on passe le tamis de l'international, qu'on arrive sur TF1, je pense qu'on ressort de là, je vais utiliser un terme un peu provocateur, mais on est atrocement déformé. Parce qu'on est passé par des canons qui ne sont pas les nôtres. Et je trouve que, à l'heure actuelle, ce qui manque dans ce chemin de marchandisation, je pense que chacun, en fait, est renvoyé à sa déontologie d'artiste. C'est-à-dire que si vous communiquez bien, que vous maîtrisez l'affichage, que vous maîtrisez TikTok et les stories Instagram, vous pouvez avoir une existence artistique dans le chant corse. Ensuite, ce que vous faites de la facilité à remplir une salle, ça, c'est votre déontologie d'artiste. L'aspect problématique que vous mettrez, ce que tu disais tout à l'heure sur Cincinnati par exemple, ce qui me choque aussi moi particulièrement, c'est le fait que les chants sortent parfaitement lavés de leur aspect problématique. L'époque de Kant, c'était une incursion dans le problématique. C'était de dire, ce qu'on vous a fait croire de la Corse, cette terre ensoleillée qui est le royaume des bandits d'honneur et des paresseux et des pêcheurs et du lâchagore et tient le temps, c'est pas ça. C'est un pays en souffrance qui se vide et qui vit de graves problématiques sociales et culturelles. L'aspect problématique qui a été spectaculaire à l'époque où il y avait des années de prison aussi, ce qui a créé une certaine pression sur le monde culturel, aujourd'hui n'existe plus vraiment. Donc, porter les problématiques de la Corse, je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a aussi quelque chose d'indicible. Il y a une souffrance, un marasme, moi que je constate à la radio à chaque fois que je reçois quelqu'un, c'est un président, Didier Simugotti. Tout le monde dit que Donc il y a un satisfaxit d'apparence où tout le monde dit ça produit à tout va, tout va bas, t'imagines le nombre de disques, alors que tout le monde en off vous dit ah, fini. Donc bon, là-dedans, un jour, il faudra peut-être, je pense que le prochain Kant, le prochain qui révolutionnera la chanson corse, ce sera celui qui aura la capacité de mettre des mots sur ce Effinida et de toucher les gens en leur donnant un peu d'espoir. Mais encore faut-il qu'il y ait une oreille pour l'entendre.
Il y a quelques jours, le GMM, merci Marc-André, me disait à Paris, début des années 70, ils essayaient d'organiser un spectacle avec des Basques à Paris, à la Mutualité, ils ne trouvaient pas de chanteur corse. C'est impossible. C'était il y a 55 ans à peu près. Patrick, aujourd'hui on a l'impression que le tourisme culturel se réduit en fait à la diffusion, au passage à l'accueil d'un certain nombre de groupes dits culturels. Est-ce que, quel est ton rapport, disons, à ces groupes? Est-ce qu'il y a une action volontariste de la part de l'Office? Est-ce qu'il y a une demande de la part des touristes? Comment est-ce que tu te situes par rapport à cette question?
Merci Sébastien, déjà pour l'invitation. Oui, bon, moi je suis un peu gêné parce que ce qui vient d'être dit finalement casse un petit peu le propos que j'avais anticipé. Mais en même temps, c'est un petit peu le but de la table ronde. Parce que moi, il me semblait quand même que dans une démarche de mise en valeur du chant à travers ce qui peut être fait comme action, c'est des concerts qui sont organisés comme vous les organisez. Et que finalement, ma pensée est la suivante, en tant qu'observateur de terrain, parce que je n'ai pas de données issues d'un observatoire spécifique là-dessus, ce que je constate quand même, c'est que des groupes de chanteurs organisent des concerts, alors souvent durant la période estivale, parce que bon, c'est quand même une période plus propice, et aussi il y a des festivals qui se tiennent. Et au fond, ce que je constate, c'est que la diffusion auprès du touriste, c'est pas conçu spécialement pour le touriste. Et finalement, un touriste qui vient en Corse, il a envie d'écouter des chants corses. Donc, il va se renseigner, il va venir notamment à l'office de tourisme. Et si vous voulez, ce n'est pas produit spécialement pour lui. En ce sens qu'il va devoir se renseigner et faire une démarche pour aller assister à un concert. Et dans ces concerts, moi, il me semble, parce que vous avez dit que le public au Corse n'était pas là, mais en assistant à des concerts, il me semble que je vois des Corses comme des touristes. Voilà, peut-être là, on peut faire. Alors, peut-être sur des groupes, il y a des groupes extrêmement connus. Enfin, je ne fais pas de différence, mais il y a quand même certains qui sont portés sur la scène internationale, etc., qui sont peut-être un peu plus identifiés par les touristes. Mais globalement, il me semble quand même qu'en assistant... Bon, après, vous avez l'habitude, puisque vous faites beaucoup de concerts, hein, et vous nous diffusez l'information aussi. Mais de toute façon, ça n'altère pas mon propos, parce que le propos est le suivant, sur la marchandisation touristique, c'est pour moi un produit qui est conçu spécialement pour le touriste. C'est-à-dire que, en fait, tout est pensé pour lui, en fait. C'est à sa demande. Pour moi, la marchandisation touristique, je pense que dans la conception de produits culturels, donc et dans la consommation culturelle, elle reste, il me semble, marginale. Parce que, par exemple, si je prends des cas, si je me penche sur la Haute Corse, on a par exemple des visites qui sont prévues pour les touristes, qui sont pensées pour les touristes. Donc, il va y avoir une visite, par exemple, avec des commentaires pour commenter le patrimoine. Et ensuite, il va y avoir un petit moment où il va y avoir des concerts donc prévus pour le touriste et c'est suivi d'une dégustation de produits locaux. Donc pour moi, ça, c'est un produit touristique, c'est une marchandisation touristique de la musique, à mon sens. Après, il peut y avoir des effets, des risques liés à cela. Donc vous-même, vous êtes là pour le dire, certainement, parce que je pense que, je ne sais pas d'ailleurs si vous faites partie de produits comme ça qui peuvent être créés ou pas, mais la difficulté dans cela, c'est que déjà vous réduisez le temps de la durée d'un concert, donc c'est spécialement fait, parce qu'on peut se dire par exemple que le touriste, bon, il va écouter un peu quelques chants, mais après ça va peut-être, il va peut-être avoir envie de passer à autre chose. Donc il y a ça, c'est-à-dire que c'est une adaptation vraiment aux touristes, et dans la durée, peut-être aussi dans le choix des chansons aussi du répertoire qui vont être celles qui sont identifiées. Tout à l'heure, on a parlé de,
de chansons aussi, dans ce qui précédait cette table ronde. Peut-être que dans le choix aussi des chansons, et ça c'est peut-être intéressant d'ailleurs de recueillir vos avis là-dessus, de savoir si vous êtes amené par exemple à collaborer sur un produit comme ça. Est-ce que votre vision, ça va être de rester finalement dans votre pensée, dans votre choix musical, etc., ne serait-ce que sur l'enchaînement, ou est-ce que vous allez choisir des chansons parce qu'elles passeraient mieux auprès d'un public touristique dont vous savez aussi que cela a été testé auparavant. Voilà, d'autres produits touristiques pour moi, c'est par exemple lorsque des agents de voyage programment un concert de chant aussi, c'est pareil, c'est un tour par exemple d'un quart de 40 personnes, 50 personnes, on va arriver à un endroit, il y a un groupe de chanteurs qui va être, si vous voulez, présent uniquement pour ce groupe de 50 personnes. Donc c'est fermé au public. Je me suis mal exprimé, c'est fermé, c'est en dehors de ces touristes, du circuit. Un autre exemple peut-être aussi, dans le tourisme d'affaires par exemple, il y a ce qu'on appelle le team building, c'est la construction d'équipes, etc. Et on propose de plus en plus des ateliers de chant, polyphoniques, les personnes sont invitées à participer à cela. Donc, dans tous les exemples cités, il y a quand même quelque chose qui se rapproche pour moi de l'ordre de la fast culture, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de consommation assez rapide, quand même, de la culture. Et c'est vrai que je comprends, ça peut poser problème. Déjà, vous parlez d'altération au départ, finalement, sur la musique traditionnelle et lyriaquiste. Mais je pense que, naturellement, la mise en valeur touristique risque aussi d'avoir une altération supplémentaire. C'est pour ça que je pense que, par exemple, quand vous concevez un produit comme ça, c'est important de faire appel vraiment, de concevoir ça ensemble. C'est-à-dire de dire au départ ce que nous ne voulons pas. Voilà, je pense que c'est la base.
Alors, la déontologie, tu as évoqué la marchandisation tout à l'heure. La marchandisation, c'est pas forcément que pour les touristes. Ça peut être aussi Soeli, chanson pour, disons, la gloire du FNC, utilisée depuis maintenant 30 ans à la gloire des joueurs du Sporting. C'est aussi une forme de marchandisation, mais non pas touristique, mais footballistique.
Il y a plusieurs confusions.
On y reviendra. Nicole Casalonga, par rapport au positionnement du Centre Bodge, qui est aussi une salle de représentation dans un lieu, la Balagne, touristifié. Je laisse chacun s'exprimer sur le surtourisme ou autre. Quel est le positionnement par rapport, à la programmation de la salle, par rapport à la cible? Est-ce que vous essayez justement, qu'est-ce qu'il y a des moyens de médiation peut-être pour faire venir des publics de jeunes Corses, notamment de jeunes, disons, ou est-ce que vous ciblez plutôt des touristes dans la perspective justement de la professionnalisation, qui n'est pas forcément un gros mot, mais qui est aussi une forme de réussite, qui peut aussi être une forme de réussite?
Alors, je dois revenir rapidement sur l'association qui a été créée en 1978. Nous étions à l'époque, c'est une circonstance vraiment très opportune, quatre musiciens, c'est-à-dire Nando à Pavive, Antoine Masson, qui était issu du conservatoire de Lyon, il était percussionniste, Tony Casalonga, qui est mon mari, mais qui est musicien aussi, pas seulement plasticien, et moi-même, qui avait suivi des cours de piano d'abord, une formation en musique traditionnelle, comme Nando d'ailleurs, et une formation que j'ai suivie auprès de Giovanni Marini, à la Scuola del Testaccio, à Rome, s'agissant justement des méthodes pédagogiques. Donc, la question à l'issue justement du Riaquist, oui, de cette question-là, qu'est-ce que notre répertoire, qu'est-ce que notre patrimoine chanté, n'est-ce pas ? Nous nous sommes posé tout de suite la question, nous qui vivons en Balagne, quel est le répertoire Balagne ? Je parle du début des années 70, n'est-ce pas ? Et là, nous découvrons grâce, je dirais même, à Nando et à Marie-Paul, qui est originaire de Louis-Capel, une tradition chantée très, très importante, très florissante, entre les trois villages, c'est-à-dire du moins les deux villages de Pioggiola et Olmicapel, et puis une incursion au village de Spelunquart. Et donc là, on trouve une magnifique tradition religieuse, je dois dire, avec alors certainement pas une tradition polyphonique dont on y disait qu'elle était polyphonique, mais les trois voix n'étaient pas certaines des trois voix, certaines des voix avaient été perdues. Et grâce à l'oreille exceptionnelle de Lando, les deux autres voix ou l'autre voix a pu être reconstituée. Comment ? En comparant justement d'abord la ligne mélodique avec justement la tradition de Rose ou Sermann, où là les corpus polyphoniques étaient encore pratiqués et très vivaces. Bon. Voilà quelle a été notre question. À partir de ça, nous avons analysé le corpus. Comprendre la grammaire.
Sur la programmation par rapport à la question des publics.
Il faut que j'arrive. Et après, nous avons établi une méthode didactique. Donc avec justement, qui identifie justement les degrés spécifiques dont parlait Baptiste tout à l'heure. À partir de ça, la question s'est posée de la transmission de la formation et évidemment de la diffusion. Alors au début, nous avions commencé parce que nous venions d'édifier la Casa Musicale qui était une ancienne maison de maître qu'on avait louée, que l'association avait louée. Et là, on y recevait des artistes de passage avec lesquels on voulait faire des études comparatives de quelque nature que ce soit, de quelque style que ce soit, enfin en général de la musique ancienne ou d'autres musiques traditionnelles. Et les veilles, donc les restitutions d'abord du groupe qui mettait en pratique justement les recherches que nous avions faites, c'est le groupe Accompagnir, nous faisions des veilles toutes les semaines à la Casa Musicale. Et puis la structure s'est avérée vraiment trop petite, trop exiguë, et on a pu construire l'auditorium de Pigne qui en 2007, je crois, a été érigé en centre national de création musicale. C'est-à-dire y compris la création, disons, contemporaine avec les médias informatiques d'aujourd'hui. Comment la tradition peut cohabiter avec ces médias-là. Mais cette question-là s'était déjà posée, en fait, dès Bartok, la question avec Kodály aussi, et les constitutions de méthodes pédagogiques. Le CNSM Vosges actuellement accueille en résidence des artistes de tout style de musique confondu, puisque c'est un centre national et qui a un cahier des charges. Donc il faut répondre à ce cahier des charges, et c'est l'obligation d'accueillir, évidemment, avec un dossier, l'étude de ce dossier, la pertinence du dossier. On accueille des artistes en résidence qui font des restitutions gratuites. Et l'auditorium est à disposition de l'ensemble des acteurs culturels corse, c'est-à-dire des groupes comme Balagne, comme l'Alba, comme Altar, etc., etc., comme Souarine.
Est-ce que c'est la mise en pratique de l'identité rhizome d'Edouard Glissant
Jenna. C'est une mise à disposition, et c'est confronter les différentes les différentes situations musicales avec le public, quel qu'il soit, touriste et corse confondu. Je constate au fil des résidences ou des concerts qu'il y a une variation, une variété, une diversité de public qui fait que, voilà, en tout cas, il n'est pas ciblé avec une spécificité particulière comme l'évoquait Saint-Gichette. C'est assez large. Et je crois que c'est l'obligation et le cahier des charges des centres nationaux. Voilà. C'est très, très... D'autre part, nous avons aussi travaillé sur justement la problématique de l'improvisation. Car en même temps que la réappropriation de ce corpus vocal, nous sommes consacrés à la réappropriation, réappropriation c'est beaucoup dire, à la reconstitution d'un instrumentarium traditionnel, à savoir les tchètes, les pires, etc. Et la question était de savoir que faisons-nous de cet instrumentarium. Et alors, lors d'une université d'été à Porté, nous avons cette aubaine extraordinaire de rencontrer Jamshid Semiramy, qui est un percussionniste, un formidable musicien iranien, qui nous a dit, si vous voulez improviser, il faut improviser sur les modes de votre improvisation populaire. Et c'est comme ça que nous avons travaillé justement sur les modes rythmiques dans le Jamerispond, qui commence très souvent par l'invocation à la muse, mademoiselle, qui est très souvent invoquée. Et nous avons d'ailleurs, en tout cas moi personnellement, j'ai travaillé justement sur la métrique ancienne, sur la métrique grecque, et notamment l'anapeste, qui est la cellule fondatrice du Jamerispond, sur laquelle se greffe par maillage, par monnayage, je dirais, d'autres formules, les épitriques, les ioniques mineurs ou majeurs, etc., etc., à partir duquel vous pouvez effectivement, rythmiquement parlant, travailler sur ces modes-là. Alors, je crois que j'ai beaucoup dit de choses, c'est très concentré, mais voilà, un peu notre propos. Et que vous dire, en tout cas, pour d'autres rapprochements qui me tiennent à cœur, c'est que lorsque j'ai travaillé avec Sergio Vart sur le clavecin, je vous disais que mon piano ne correspondait plus à la réalité du moment musical, je veux dire. Je me suis tournée vers l'orgue d'abord et ensuite vers le clavecin. Car Monseigneur Justinian, vous l'avez évoqué, je crois, Davia, Monseigneur Justinian, préconisait pour les enfants qui voulaient étudier la musique de commencer avant l'orgue, de commencer, puisque vous savez que l'instruction se faisait dans les couvents, pour l'essentiel, hein, jusqu'au début du siècle. Avant de toucher l'orgue, intéressez-vous au clavecin. Et il y a des clavecins en Corse, notamment nous en avons des traces dans les familles de notables. Et donc, je vais faire, en même temps que ma formation auprès du Testach, je vais m'inscrire au conservatoire de Ferrare dans la classe de Sergio Vart. Et je lui dis mes préoccupations au sujet de cette relation entre le vocal et l'instrumental. Et lorsque je lui parle de cette basse qui construit cette basse pratiquement génératrice de la polyphonie, etc. Voilà, vous pouvez. Et il me dit ceci, mais c'est la base de la romanesque. Or, j'étais en train d'étudier Frescobaldi, et les partites et les sept partites sont très romanesques. Et sur la septième partita, vous avez la déclinaison, pratiquement, j'ai fait une superposition entre la base traditionnelle et la base de la romanesque. Voilà ce que je voulais vous dire.
Donc, une dernière question.
Il y a des liens. D'ailleurs, il faut savoir que la Corse, qui était génoise, et qu'en plus, les orgues ont été facturés par des facteurs toscans, avec la circulation des hommes et des idées, c'était aussi la circulation des voies musicales. Seulement, ça s'est fait avec le temps, avec la lenteur du temps. Vous comprenez? Et donc, ce qu'on chante maintenant, ce sont des strates, des sédimentations d'apport, d'acculturation, et ce n'est pas dans l'immédiateté. Voilà ce que je voulais dire.
Merci. Une dernière question concernant, alors, je ne sais pas si vous avez pris les deux programmes, les deux programmes ne portent pas le même titre. Le titre d'Icar, c'est musique engagée entre conformisme et émancipation. Et de notre côté, on avait intitulé cette journée Thésor et musical, il trairait d'innovation, les dynamiques et du patrimoine du musical, une course et méditerranée. Quand tu parlais tout à l'heure de transformation du cadre, hein, de l'expérience, je ne sais pas si tu pensais à ça, à Cadène, chanté par Benji Girard qui fait la fête à la plage. Ça, là, on n'est pas dans le même registre que la photo de ce matin avec Quentin Gougougours qui chante devant une banderole Solidaridad ou Tutti Badriout. Voilà. Sur ce genre de chansons. Est-ce que ce changement de cadre, on peut avoir deux attitudes, tu évoques la question de la déontologie, est-ce que du coup on doit quasiment supprimer tout ce qui a été produit par le Réacuiche, parce que quasiment tout ce qui a été produit, c'est de la musique justement engagée, comme nous le font remarquer nos amis d'Icar. Ou est-ce que, justement, est-ce que ce n'est pas une forme de réussite, quelque part, de reconnaissance, et non pas de réification, de folklorisation, le fait que l'on se permette aujourd'hui qu'il y ait autant d'animation. Il y a peut-être aujourd'hui beaucoup plus de groupes d'animation que de groupes qui créent. Hein. Est-ce que c'est pas, est-ce qu'il faut pas voir le verre à moitié plein, comme l'invite souvent le faire Alain Dimigne, qui dit tu vois trop le verre à moitié vide. Est-ce que c'est pas justement une bonne chose de voir ce patrimoine, puisque Deborah me dit ça c'est le patrimoine hein, justement. C'était il y a 40 ans, c'est vieux. Est-ce que ça, c'est pas justement une forme de victoire et de reconnaissance de voir qu'il y a autant de jeunes capables de chanter, beaucoup plus en nombre, certainement plus important aujourd'hui qu'il y a 50 ou 40 ans.
Bon, déjà, c'est Sergio Navito, il y a Sadaden, il y a Chapad, ciò che ha conoscenza mia, non è un caso, Sébastien. Dio la strage d'ouvrir. La question est écrasante, je trouve, parce qu'elle est très complexe, quoi. Et bon, il y aurait tellement de choses à dire que l'heure, la journée ne suffirait sûrement pas.
On se donne encore 5 minutes.
Allez, on se donne 5 minutes. Déjà, moi, je pense qu'en soi, c'est pas le problème n'est pas d'avoir un public touristique. Le problème n'est pas du tout de rayonner à l'international. Je pense que U2 ne chante pas que pour des Irlandais, voilà, et qu'on peut trouver les Quilapayún ne chante pas que pour des Chiliens. Ce qui est problématique à l'heure actuelle, là où il y a un risque, c'est dans la perte de sens. C'est-à-dire que toute la chanson corse, chant corse, donc que ce soit traditionnel, riacuisto, rock noustral et toutes ces catégories-là, tous les artistes différents ont été placés dans une sorte de grand sac où tout est renvoyé dos à dos dans une espèce d'unicité de propos, de période, sans qu'il n'y ait plus aucune traçabilité parce qu'on est passé par un canal qui nous a fait rebondir à l'international et ce canal n'était pas le nôtre. Donc les problématiques qui peuvent émerger des chants, lorsqu'elles s'effacent complètement, en revanche, c'est problématique. Si vous chantez Sunday, Bloody Sunday, et que vous oubliez les événements dramatiques qui servent, je pense qu'à l'heure actuelle, dans le monde, il y a des millions de fans qui savent ce qu'est le Sunday, Bloody Sunday, ce qui s'est passé ce jour-là. Ensuite, la chanson a son existence.
Ils ont peut-être aussi fait la fête, qui ont dansé, hurlé.
Ah, mais ça, c'est une sorte de victoire, à condition que le chant ne perde pas son sens. Voilà. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ce que nous devons retrouver, c'est une traçabilité, une lisibilité des choses, et perdre cet aspect un petit peu monobloc qui est en train de prendre dans cette commercialisation à l'international le chant corse. Et mon inquiétude, une fois de plus, c'est la perte d'un public averti qui est capable de démêler les choses. À un moment donné, quand vous écoutez, par exemple, le Buenavista Social Club, je suppose qu'à Cuba, vous devez avoir des gens qui sont capables de vous dire quelle est la bonne musique cubaine et vous avez un public natif qui permet de faire les rois. Et puis, vous avez une dimension internationale. Ma crainte, c'est que l'acculturation a continué à avancer au sein de la société corse. Et je pense que ce sens s'est échappé même de certains interprètes à l'heure actuelle. Mon ami, comme Ubiège di Dijula, ma pensogi, odierno, c'è ancora perdita di senso, anche all'interno dei gruppi, c'è sei giovani che cantano, non sono mica convinto che ci sia altrettanto giovani in capacità di dare una conversazione sciolta in lingua corsa. Donc la déontologie, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas renoncer à son sens. Voilà. Moi, je pense qu'un public est respectable, quel qu'il soit. Qu'il soit corse, qu'il soit très averti, que bosiade a mesa i mariani e i guelfucci disermano, o que bosiade a mesa terroristi, le public est toujours respectable. Par contre, vous devez rester le même. Le propos est celui-là. Et je pense que cette perte de sens, elle doit nous préoccuper et nous conduire justement à nous interroger sur la nature des périodes, sur la nature des chants, sur le propos, sur les fonctions qu'il a occupées aussi à travers le temps. Et c'est ce que j'ai essayé très modestement de faire avec Undior Nuna Ganzon en essayant de donner du sens justement aux chansons et de les resituer dans leur contexte.
Sur sa grammaire, si vous n'étudiez pas, si vous n'analysez pas ce chant, mais aussi sur sa grammaire, sur sa signification, enfin sur sa fonction lexicale, il faut, voilà, je pense que ça passe par ça, les compositions.
Patrick, peut-être.
Et ça, je salue l'édification d'un DE, d'élu, je crois, qui va donner des générations, justement, qui seront capables de composer et de ne pas perdre de sens.
Effectivement, alors ça c'est une partie, c'est un rôle, en tout cas une part de responsabilité qui peut être endossée par l'université via la création de ce DUDE. Est-ce que là aussi, Patrick, par exemple, le tourisme peut aussi avoir un pouvoir en termes de médiation culturelle, justement, pour essayer de recadrer, peut-être, d'expliquer peut-être l'origine, au-delà, disons, des différentes performances artistiques, essayer de,
de recréer son cadre.
Oui, je crois que c'est certainement une des clés, hein, la médiation culturelle, expliquer justement pour ne pas perdre ce sens. Et je crois que ça peut passer aussi par peut-être une réflexion avec un guide de bonne pratique, je ne sais pas, sur la mise en valeur. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une ligne de crête très, très étroite d'équilibre entre la mise en valeur et la mise en scène. Voilà. Et quand on est dans la mise en scène, c'est là où on risque de perdre ce sens. Voilà. Donc je pense qu'il y a une responsabilité, oui, naturellement, dans les politiques touristiques, notamment, ou dans ce dont on peut être en charge et créer, etc. Oui, il y a une responsabilité. Après, je pense qu'il faut se poser justement les bonnes questions et concevoir ça ensemble. Il existe, voilà, les textes de référence. Je pense que oui, il y a toute une réflexion à avoir là-dessus. En effet.
Merci beaucoup.